Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Le Club de Tamani.
Tous les vendredis à 18h15.
Chaque objet, chaque mot, chaque image porte en lui une histoire. Mais que se passe-t-il lorsque ces fragments du passé risquent de sombrer dans l'oubli? C'est pourtant la menace silencieuse qui pèse sur notre patrimoine culturel au Mali. L'archivage culturel n'est pas qu'une affaire d'objets anciens et de vieux papiers. C'est un combat essentiel pour l'identité, la connaissance et la survie même de nos civilisations et de nos valeurs. Ainsi est donné le coup d'envoi de votre émission Culture, le Club de Tamani de ce vendredi. Nous abordons ce soir un thème d'une grande importance dans la culture malienne. Il s'agit bien de l'archivage culturel. Y a-t-il une structure d'archivage culturel au Mali? Quels sont les principaux défis du pays en matière d'archivage de son patrimoine culturel? Comment les conflits récents, notamment dans le nord et le centre du pays, ont-ils impacté les efforts d'archivage et de protection des manuscrits anciens? Pour en parler, nous recevons ce soir Dr Fode Moussa Sidibé. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Kabbala, également ancien cadre du ministère de la Culture. Le Club de Tamani, c'est aussi nos rubriques habituelles, tant chéries avec nos chroniqueurs qui sont déjà positionnés à la mise en onde de Mamadou Ouattara, présentation, Aïssata Diarra et Lala Diarra Touré. Encore une fois, merci de nous suivre. Bonsoir la belle Aïcha, comment vas-tu?
Bonsoir la sublime Lala, j'ai rengrassé toi.
Je crois que je suis la cadence, nous sommes dans le mood du vendredi.
C'est vrai, les vendredis ici c'est les shows assurés.
Ah mais comment? Et ce soir nous allons faire plaisir aux amoureux et nous commençons avec Gouzno Flo qui nous chante Djarabi.
Oh,
mars 2025, c'est la date de sortie de ce morceau de l'artiste Gouznoflo.
Et Aïcha, le morceau totalise à ses jours, tenez-vous bien fidèles auditeurs, 4 millions de vues sur YouTube. Faisons de la place à présent pour Moussa Malé Sissoko pour la revue de la presse.
La revue de la presse.
Merci d'être au rendez-vous du club Moussa Malé Sissoko. Il a été question de quoi cette semaine dans la presse malienne?
Bonsoir Lala Diarra Touré, bonsoir Aïssata Diarra. Les recours contre la dissolution des partis politiques a fait les gros titres des journaux cette semaine. À travers un décret, le président de la transition a dissous le 13 mai dernier toutes les formations politiques au Mali. Des collectifs d'avocats commis par ces partis ont introduit une procédure contre la dissolution de ces formations devant les tribunaux de grande instance de Bamako. Mais seuls les tribunaux des communes 1 et 6 se sont dits compétents à juger le dossier. Le bras de fer judiciaire entre les anciens partis politiques dissous et l'État malien se poursuit devant les juridictions de Bamako, rapporte Infomatin. Le quotidien privé, l'Indépendant, annonce que les deux audiences aux tribunaux de grande instance des communes 1 et 6 ont été ajournées pour une seconde fois consécutive. L'audience initialement prévue pour le 7 juillet en commune 1 a été de nouveau renvoyée le 28 juillet, puis 4 août prochain pour débat. Au lendemain de ce renvoi, le tribunal de grande instance de la commune 6, où l'audience devait reprendre le 8 juillet, a opté pour un autre ajournement à la demande de la partie plaignante, selon l'Indépendant. De son côté, l'édition quotidienne de Diamana, Les Échos, ajoute que les avocats de la défense demandent que le dossier soit transmis à la Cour suprême afin de permettre une saisine de la Cour constitutionnelle. Nous étions devant la chambre de mise en état. Le président de cette juridiction ne fixe pas la date de l'audience de jugement. C'est pourquoi il a parlé d'un renvoi à une date ultérieure, a expliqué Maître Mamadou Camara, un des avocats des ex-partis politiques. Dans les colonnes du journal, et Maître Camara de soutenir que le juge civil n'est pas compétent pour trancher cette question. Nous allons lui demander de se dessaisir au profit de la Cour suprême, qui transmettra ensuite le dossier à la Cour constitutionnelle. Le site bamada.net rappelle que la transition en sa qualité d'organe dirigeant a toujours affiché sa volonté de refonder le système politique malien sur des bases saines et inclusives, comme en témoignent la révision constitutionnelle et la réforme électorale en cours. La justice, pour sa part, s'efforce de jouer un rôle en toute indépendance dans le respect des règles de procédure et des droits des citoyens, commente le site. C'est ce qu'il faut retenir des kiosques à journaux cette semaine. Aïssata Diarra et Lala Diarra Touré.
Merci beaucoup Moussa Malé Sissoko pour ces infos. Nous allons te retrouver à la fin de cette émission pour la version en langue nationale Bamanankan.
D'une rubrique à une autre, c'est l'heure de la rubrique éducation aux médias.
Les coulisses de l'info.
Et ce soir, Fatoumata Kodjo, la Miss High-Tech Aïcha, décide de nous parler de plagiat.
Fatoumata Kodjo s'est entretenue avec Sadou Yattara, journaliste, doyen de la presse et expert en médias.
Le plagiat, c'est, disons, ce comportement, cette attitude qu'a un journaliste, dans ce cas-ci, pour s'approprier ce qui ne lui appartient pas, publier, puiser des informations et que faites vous-même l'auteur. Donc vous faites vous-même l'auteur, alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas. C'est ça en fait le plagiat. Donc c'est ce comportement, disons, malhonnête, disons ainsi, auquel certaines personnes s'adonnent en s'attribuant les mérites qu'ils n'ont pas, le travail pour lequel les autres ont trimé. Et que vous vous présentez en tant que propriétaire, en tant qu'auteur, sans que cela ne soit vrai. C'est ça le plagiat en réalité. Et il n'est pas que journalistique, il est aussi dans beaucoup d'autres domaines. Vous voyez, non?
Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse des journalistes à cette pratique?
C'est simple, hein? Parce que justement aujourd'hui, en fait, les gens fournissent peu d'efforts. Les citoyens, les journalistes, surtout, fournissent peu d'efforts pour satisfaire les usagers des médias. Et puis il y a la facilité d'accès à l'information par rapport à une période assez lointaine. C'est aussi la paresse intellectuelle qui n'est pas donc fournir assez d'efforts pour creuser. C'est ça qui les pousse en réalité donc à plagier. Et puis aussi, c'est cette façon qu'ont les êtres, de façon générale, y compris les journalistes, de vouloir frauduleusement s'attribuer ce qui ne lui appartient pas. En réalité, c'est un vol, mais un vol suicidaire.
Que disent les textes concernant le plagiat?
Et il y a naturellement le code éthique et déontologique du journalisme malien qui condamne justement le plagiat. si je ne me trompe pas, c'est l'article 5 qui dit que le journaliste s'interdit le plagiat. C'est pratiquement tous les textes techniques et professionnels, les différentes chartes, les différentes déclarations, les différents codes l'interdisent formellement aux journalistes.
À quelles sanctions les auteurs du plagiat s'exposent-ils?
Évidemment, si naturellement on avait un organe d'autorégulation donc, qui gère ces aspects, et chaque fois qu'un journaliste est pris donc, dans les liens donc, de plagiat, ils allaient les sanctionner. Ils allaient les sanctionner, ils allaient prendre toutes les sanctions qui s'imposent. Les sanctions sont multiples. Il y a évidemment la suspension des organes, il y a aussi le fait de déclarer publiquement que vous avez plagié. Il y a aussi autre chose, beaucoup d'autres choses qui peuvent donc aller jusqu'à peut-être même à la suspension ou au retrait de la carte professionnelle, etc. Tout ça.
Qu'en est-il de la responsabilité des organes de médias en ce qui concerne le plagiat?
La responsabilité des médias, elle est quand même importante, hein, même si ce n'est pas les médias qui ont produit le papier en question. Je dis le fait que ça soit publié dans un journal, que ce soit diffusé dans une station de radio, une télévision, et que ça s'avère après que c'est des plagiats, ça porte atteinte quand même à l'honorabilité des médias en question. C'est ça la responsabilité des médias en question. Donc, principalement, les rédacteurs en chef, les responsables des éditions doivent vérifier rigoureusement est-ce que les informations que les journalistes produisent. Évidemment, ce n'est pas aussi intéressant, ce n'est pas bon toujours de vérifier ceci ou cela, ainsi de suite. Mais maintenant, c'est facile en réalité. Dès que les responsables doutent, il y a des outils qui permettent de vérifier si l'information donc, a été plagiée ou que c'est effectivement un travail des journalistes à proprement parler. Mais tout cela passe vite parce qu'il y a vraiment le logiciel qui permet de le faire et que assez de jeunes aussi, toutes les rédactions d'ailleurs se les connaissent, est-ce que vous voyez? Donc on peut vérifier. Le rédacteur en chef doit renforcer ses capacités en la matière pour que dès qu'il a des doutes évidemment, qu'il fasse cela.
Quel conseil avez-vous pour les jeunes journalistes pour éviter le plagiat?
C'est de ne pas céder à la facilité. De faire des recherches, est-ce que vous voyez? Pour satisfaire justement les besoins des usagers des médias, les consommateurs, les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs, il faut effectivement et ne pas céder à la facilité. Et penser surtout à ceci, parce que et penser aussi à la crédibilité de la rédaction, de sa rédaction de façon générale. Parce que si vous ne pensez pas à la crédibilité de votre rédaction, eh bien cela peut justement faire en sorte que vous considérez comme une rédaction non professionnelle. Donc c'est un peu ça si vous voulez. Donc toutes les conséquences qu'il y a autour du plagiat. Et les journalistes doivent effectivement veiller rigoureusement à ce que cela ne soit pas.
J'espère que les uns et les autres sont mieux situés s'agissant de la notion de plagiat. Et maintenant, Lala?
Il est temps d'accueillir l'invité culture.
L'invité culture.
Comme annoncé en début d'émission, ce soir, nous recevons le docteur Fode Moussa Sidibé.
Il est enseignant-chercheur et ancien cadre du ministère de la Culture. Bonsoir, Monsieur Sidibé.
Bonsoir à vous.
Nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau.
Oui, c'est tout le plaisir est pour moi d'être sur votre plateau, comme toujours.
D'accord. Alors, à quoi nous renvoie la notion d'archivage culturel?
Bien, la notion d'archivage culturel nous renvoie à la constitution de notre mémoire culturelle. Quand on a des archives, je prends l'exemple des manuscrits de Tombouctou et de tous les manuscrits, que ce soit à Ségou, ainsi de suite, dans tout le pays. Ces manuscrits-là constituent aujourd'hui notre mémoire culturelle, un patrimoine qui est là, qui est existant, qui contient des éléments du patrimoine immatériel, mais qui sont devenus un patrimoine matériel, parce que c'est matérialisé, ça a été archivé. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Cependant, toute l'expérience de ce qu'on appelle le ministère de la Culture, avant que ce soit le ministère de la Culture, c'est le ministère de l'Artisanat, du Tourisme et de la Culture. Ensuite, c'est devenu, bien avant ça, c'était le ministère de la Jeunesse, des sports, n'est-ce pas, et de la culture. Et aujourd'hui, quand on essaie de faire des recherches sur ces différents ministères et sur ce qu'ils ont eu à faire comme activité, comme élément de patrimoine que nous devrions avoir aujourd'hui, je crois que vous allez travailler, vous allez vous promener beaucoup et je ne suis pas certain que vous aurez des éléments par rapport à ça.
Alors, docteur, y a-t-il des archives culturelles au Mali?
Vous avez anticipé sur la deuxième question.
Oui, bon, bref, il y en a, ça existe. Ça existe, ce que je connais et ce à quoi j'ai vraiment confiance, c'est les archives cinématographiques du Mali qui sont actuellement, si je ne m'abuse, au Maroc.
D'accord.
C'est-à-dire depuis les temps colonial, toute la période de Modibo Keïta, un peu de Moussa Traoré, ces archives, les voyages du président, tout ça, ça a été archivé. Mais dans l'incapacité de, d'avoir un lieu pour les garder, pour les conserver, le Mali a eu recours, si je ne m'abuse, au Maroc. Et donc, ces archives filmiques se trouvent au Maroc aujourd'hui. À part ça, bon, il y a chacun fait recours à l'ORTM. Et l'ORTM, bon, je crois qu'il y a eu des problèmes là-bas. Beaucoup d'archives ont été détruites, etc., etc. Donc, ça fait que aujourd'hui, il est très difficile de dire, voilà, ça c'est un bâtiment dans lequel on trouve les archives, la mémoire du ministère de la Culture.
Wow, c'est quand même déplorable. Et dans quelle mesure cette insuffisance-là impacte la préservation du patrimoine?
D'abord, la connaissance du patrimoine. Parce que nous avons quand même des universités, que ce soit les universités privées, que ce soit les universités, l'université nationale, publique. Les étudiants ont toujours besoin de cela. Et nous avons deux grandes écoles de culture, c'est-à-dire l'INA, et le conservatoire
Balafaseke.
Bon, ces étudiants ont besoin de ces archives-là pour avancer.
Absolument.
Ne serait-ce que pour faire leur mémoire, pour faire leur master, ils ont besoin de ça. Et ceux qui font le doctorat ont également besoin d'archives pour consulter, enrichir leur réflexion et tout ça. Mais ça n'existe pas. Ça peut exister avec les ceux qui ont déjà travaillé au ministère ou ceux qui ont travaillé à l'ORTM. Et à l'ORTM même, des choses doivent exister, mais impossible de mettre la main dessus. Ou alors, on va trouver que c'est dans le désordre le plus absolu.
Absolument.
Et il n'y a personne. Un moment, je sais qu'il y avait quand même un grand archiviste qui était là, mais je crois que lui, il est décédé. Maintenant, on ne sait plus à qui s'adresser. Lui seul était la mémoire de l'ORTM en matière d'archivage culturel. Lui n'étant plus, bon, le problème est insoluble.
Le Mali étant un grand pays de l'oralité, quelle est la place justement de la tradition orale dans l'archivage culturel au Mali? Comment est-elle documentée et conservée?
Bon, c'est ça le grand problème. On aurait pu ou on aurait dû, depuis ces longues années, quand même mettre en place une structure d'archivage de toute notre expérience orale. Mais aujourd'hui, vous allez demander des interviews de Bazoumana Sissoko, je crois que vous n'en aurez pas. Or, il en a donné. C'est la même chose pour, je ne sais pas, les grands artistes disparus. C'est la même chose. Même ceux qui sont partis hier tout près, qui sont décédés hier tout près, on a des difficultés. Il n'y a rien au ministère de la Culture qui soit une structure d'archivage de ce qui est là comme élément culturel. Prenons l'exemple de la Biennale. Il y avait eu un moment une structure chargée de la Biennale, qui était la maison de la Biennale, bon, qui avait été instituée au Palais de la Culture. Mais malheureusement, un ministre est venu. Il a cassé cette structure. Il y avait même la maison de la chasse qui s'occupait de tout ce qui est élément relatif à la chasse, aux activités de chasse sur le plan culturel. Mais un ministre est venu, il a détruit tout ça. Il n'y a plus ces
mécanismes-là.
Donc on ne sait même pas l'archivage qu'il y avait eu, où sont partis les éléments. On ne le sait pas. Si c'est au cabinet là-bas, qui s'en occupe? On ne le sait pas. Bon, donc, c'est vraiment un vrai problème dans notre culture. Je crois que année de la culture, Il faut s'occuper de l'archivage.
Absolument. Il faut poser quand même les bases, hein, ne serait-ce. Merci beaucoup, docteur Fodi Moussa Sidibé, pour toutes ces réponses. Nous allons juste marquer une pause musicale, Aïcha.
Et oui, Lala, nous allons proposer cette fois-ci un morceau rétro, celui d'une légende qui s'est éteinte malheureusement en mai 2018.
Et oui, Aïcha, il s'agit bien de Kassé Madi Diabaté qui nous chante « Cannibal ».
Suivre à l'instant Cannibal de Kassé Madi Diabaté. Il s'est éteint à l'âge de 69 ans, Lala.
Si vous venez de nous capter, sachez que vous suivez le Club de Tamani, l'émission culture de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani. Et ce soir, nous parlons bien sûr d'archivage culturel, Aïcha.
Nous allons poursuivre notre série de questions et réponses avec notre invité. Dites-nous, docteur, comment la formation des archivistes et des conservateurs est-elle assurée au Mali? Y a-t-il des besoins à combler?
Oui, ça je peux dire sans risque de me tromper. J'ai fait quand même 7 ans au cabinet du ministère de la Culture. Bon, je ne pense pas qu'il y ait eu un recrutement d'archivistes documentalistes pour pouvoir s'occuper des archives du ministère de la Culture. Il n'y en a pas. Wow. Je n'en ai pas connu. Et je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas.
Mais est-ce qu'il y a même un système de formation au Mali qui s'occupe de ce volet-là?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait une formation d'archiviste documentaliste au Mali. Mm-hmm. Généralement, les archivistes documentalistes sont formés au Sénégal, mm-hmm. à l'université de Dakar. Mm-hmm. Ceux que nous connaissons, viennent de là-bas. Peut être formés ailleurs. Mm-hmm. Mais à ma connaissance, quand même, le ministère n'a pas dans son personnel un archiviste documentaliste qui fasse le travail d'archivage des éléments culturels que produit le ministère de la Culture et même que produit les autres, les acteurs culturels et tout ça. Mm-hmm. Il n'y en a pas.
Mais cela nous renvoie à quoi? À l'équation toujours de l'inadéquation de la formation et de l'offre?
De la formation et de l'offre, surtout de l'engagement des ministères à faire des recrutements intelligents. Je mets intelligents entre guillemets. Mm-hmm. Des recrutements intelligents selon le besoin. Au niveau du ministère, est-ce qu'on a conscience même que c'est un besoin qu'il faut nécessairement combler et le plus tôt possible? Est-ce qu'on a eu conscience de cela? Est-ce qu'on a réfléchi sur le fait que c'est un archiviste, quelqu'un qui est formé dans le travail, mm-hmm. qui doit occuper qui doit faire ce travail-là et qu'on doit recruter pour que ce travail-là soit fait selon les règles de l'art. Ça, c'est un gros problème au niveau du ministère. Je ne pense pas que nous ayons même conscience que l'archivage est un vrai problème et c'est une question de développement, développement dont il s'agit. Donc, il faut nécessairement s'en occuper. Il faut en avoir la conscience.
Parlons insécurité à présent, docteur. Nous savons que le Mali, depuis 2012, est dans une crise multidimensionnelle. Dans quelle mesure est-ce que cette crise, justement, impacte la préservation culturelle?
Cette crise impacte fortement la préservation culturelle, d'autant que les archives, ou du moins les manuscrits, restent toujours, dans certains cas, sous la menace d'un culte, n'est-ce pas, d'envahisseurs qui pensent pouvoir refaire le monde, tout en oubliant que nous avons fait un grand chemin en tant que Mali, bien avant aujourd'hui. Donc, leur action freine le déroulement normal des activités culturelles dans beaucoup de localités. Mmh. Et c'est la mémoire qui en souffre et c'est les activités culturelles qui en souffrent naturellement.
Alors, docteur, quel rôle jouent les musées et les bibliothèques dans l'archivage et la valorisation du patrimoine culturel malien?
Leur rôle doit être central. Mais nous avons une vision déjà bien dégagée de ce que c'est qu'un musée. Comme on le dit en Bamanankan, Finkoro Marayoro. Finkoro Mounoukodo, ce dont il est question de garder, il s'agit des objets matériels. N'est-ce pas? C'est vrai, il y a des objets immatériels, il y a les photos, il y a les sons, tout ça, qui sont conservés au niveau du musée. Mais je n'ai jamais su, pendant 7 ans de cabinet, que le musée avait une section, n'est-ce pas, qui se chargeait de l'archivage des activités culturelles, même des discours des ministres. On ne sait pas, il y a des discours vraiment souvent que les ministres faisait à l'époque, lors de grandes cérémonies, d'ouverture de la biennale, etc., etc. On ne sait pas où vont ces discours-là.
C'est quand même déplorable, hein? À qui revient la faute, hein?
C'est l'organisation même de la structuration même du ministère qui est en question là. C'est la structuration même du ministère qui ne tient pas compte de l'archivage. C'est ça le drame. Quand le ministère est structuré de façon qu'il y a des directions, mais quelle direction s'occupe de l'archivage? Est-ce que c'est la DNPC, Direction nationale du patrimoine culturel? Est-ce que c'est le musée? Est-ce que c'est la DENAC? On ne sait pas qui s'occupe de l'archivage des activités ministérielles. Est-ce que c'est le cabinet? Le cabinet étant de nature changeant. Quand il y a un nouveau ministre, les gens vont et viennent. Je sais qu'aujourd'hui, depuis un certain temps quand même, il y a une certaine stabilité au niveau de l'infographie du ministère de la Culture dont s'occupe Souleymane Malé. Il a des documents, mais il n'est pas archiviste.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas penser à mettre en place une structure indépendante qui s'occuperait uniquement de cet aspect des choses?
Exactement. Ça, c'est une belle idée que le ministère gagnerait à écouter et à mettre en pratique. C'est-à-dire mettre en place une structure indépendante qui va s'occuper de l'archivage de tout ce qui se passe au niveau du ministère de la Culture. Je sais que le ministre actuel est un ministre d'images. Il aime bien les images. Bon, on connaît bien son parcours. Donc, je pense que à y réfléchir, peut-être lui peut être le premier à mettre en place une telle structure qui s'occuperait non seulement de tout ce qui est en train d'être fait dans le cadre de
l'année, même de la
l'année
culture,
de la culture, et que ce ne soit pas archivé par, disons, des amateurs en la matière.
Absolument.
Mais que ce soit un professionnel ou des professionnels d'archivage qui soient là.
Ouais.
Sinon, je sais que, bon, depuis qu'il est là, quand même, tout ce qui se passe, ils prennent des images, ils font des photos, mais quel est le classement normal de ces différents éléments dans le cadre de l'archivage? C'est ça la question.
C'est quand même beaucoup trop d'efforts pour qu'au final on n'en sache rien,
on en que sache les générations rien et futures. Que ça passe comme,
voilà, comme le temps.
Voilà.
Alors, au-delà de l'insécurité, docteur, quels sont les autres défis auxquels le Mali est confronté en matière d'archivage de son patrimoine culturel aujourd'hui?
Puisque ça n'existe même pas. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure qui s'occupe réellement de l'archivage. Donc, en ce moment, la question de défi ne se pose pas. Voilà. Ça n'existe même pas. Moi, je ne connais pas. Bon, ça m'étonnerait que cela existe et que moi, je n'en sache pas quelque chose. Donc, c'est quelque chose à créer. C'est un département à créer ou alors une section à rattacher soit à la DNPC ou à la DENAC ou, bon, rattacher peut-être au cabinet. Mais comme les cabinets vont et viennent, bon, on ne sait pas. Donc, c'est des réflexions à mener dans le cadre de l'année de la culture, n'est-ce pas? Des réflexions à mener par rapport à la structuration même du ministère de la Culture.
D'accord, mais est-ce que c'est vrai, docteur, que quand on parle d'archives, il faut impérativement avoir deux copies de l'élément archivé en question? Parce que qu'une seule copie, ce n'est pas de l'archive.
Non, il faut même plus. C'est un minimum de deux. Sinon, il faut plus. Parce que les archives sonores, par exemple, il y a toujours ce qu'on monte, mais il y a les rushs.
Il y a les rushs, oui.
Qu'il faut, voilà, l'original brut, qu'il faudrait garder précieusement. Et c'est ça, l'archive.
Wow.
Ce qu'on diffuse peut disparaître ou peut... Mais tant qu'il y a les rushs, le document brut entier... C'est cela
on
dont on a besoin.
En sortir quelque chose.
Voilà, on peut toujours en faire quelque chose.
Merci beaucoup, docteur Fodé Moussa Sidibé. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et ancien cadre du ministère de la Culture. Merci pour toutes ces réponses. L'émission n'est pas finie, Aïcha, car nous prenons à présent le chemin des stades.
Oui, Lala, c'est toujours un plaisir de compter parmi nous Ousmane Nyalibouli pour la page sport. Bonsoir Ousmane Nyalibouli, comment allez-vous?
Bonsoir Lala, bonsoir à tous nos auditeurs.
Alors, qu'est-ce qui fait l'actualité sportive, Ousmane Nyalibouli?
Lala, nous parlerons du basketball et du football, notamment de la montée de deux nouvelles équipes en championnat national Ligue 1. Commençons par le basketball, donc avec cette belle victoire des Aigles d'Âme en quart de finale de l'Afro-Basket féminin. Les Maliennes ont dominé leur homologue du Mozambique 86-68. C'était hier en quart de finale de l'Afro-Basket féminin Abidjan 2025. Une victoire qui propulse le Mali en demi-finale et dans ses dernier carré, les Aigles d'Âme affronteront le Soudan du Sud. Une retrouvaille donc entre Maliennes et Sud-Soudanaises, puisque les deux équipes s'étaient déjà croisées lors de la première journée de la compétition. Les Maliennes l'avaient l'emporté, mais difficilement, 55-53. C'est donc dire que c'est une affiche alléchante de demi-finale qui attend le Mali. En football, pour la montée en Ligue 1, ce sont les Derby Academy représentants de la Ligue de Bamako et les FC Malikoura représentants de la Ligue des Koulikoro qui sont promis en Ligue 1 pour la saison 2025-2026. Et là, on va dire bonne chance à ces deux nouvelles équipes. On boucle avec cette page sportive avec le transfert de Amari Traoré qui va quitter la Liga espagnole pour la Ligue 1 française. L'ex-capitaine des Aigles, Amari Traoré, devrait quitter la Real Sociedad en Liga espagnole pour le Paris FC en Ligue 1 française. Et selon plusieurs sources, un accord a été trouvé entre les deux clubs club. Et les défenseurs maliens s'apprêtent à signer un contrat de 3 ans avec la formation de la capitale française. L'ancien capitaine des Aigles du Mali, qui avait aussi évolué du côté des Rennes en France, apportera son expérience et sa solidité défensive à l'équipe parisienne promue en Ligue 1 française cette saison. Voilà, c'est tout pour cette page sportive. Merci Lala.
Merci beaucoup pour toutes ces informations et nous allons te souhaiter bon week-end avec de la bonne musique, Aïcha.
Tout à fait, Lala, nous allons l'accompagner avec Takamba de Habibou Kouaté.
Une sonorité, un soleil qui a fait la pluie et le beau temps, Aïcha, et elle continue d'ailleurs de faire danser plus d'un.
Présent et retrouvant Moussa Malé Sissoko pour la revue de la presse en langue nationale Bamananka.
La revue de la presse.
Lala Diaraturé, Aissata Diarra, Aubenula. Nyenteke donc kuna foni palankono amborani politiki jekulu chilen kofe ouye damakasi gafe ou don kiritike so konnana kuna foni dila ou kumono de kan kosobe doa kuin konnana. Kakeni latike sebendoe franche latime fanga nyema aye politiki jekulu bela jelenchi menkalo tletani sabatemene. O siratike la ni politiki jekulu tonkoro nunu kasoro na dombaga ouye damakasi gafe ou don kiritike so konnana Bamako. Nga Bamako sigida folo ana worona kiritike so de sona kani wale nunu kiri. Info matin ale ka boli la abayira ka fo ko politiki jekulu koro ye jamana wele bogo jennen kan ko bara u besena mi e independant ale ka boli la abayira ka fo ko kirita ko flana mun kan ka ke bamako sigida folo ana worona konona na oluboro u dogo koro kuna fondiso inga fola ko kiri kun kan ka ke jue kalot le wolon vla bamako sigida folo kiritike so konona na ko bora dogo koro kabla jue kalot le mugani shegina o fenela uyabla utikalo tle nani natala wala saka kuma udaira nyogona. Oduguje, juwe kalo tle shegin temene. Bamako sigida worona kiritike so kononana, ofene bora adogokoro katla kabla juwe kalo tle mugani konontona. Odonfene, atlala kabo adogokoro independant kafola. Mie lezeko ye, aleko ko fere tonkoro uka sorona dombago uba nyini, ko ni kiritike so nunun ka sebem bla kata cour supreme la wala sa cour supreme fenebse ka cour constitutionnel la soro luka seka nin ko nunu jalatige maître mamadou kamara nale fereton koroka sorna dombaga doe ako ko ni kirin kun damnena chambre de mise en état des faits wa ko onyemati seka watifo kirikanga ke chambre de jugement fait ko de kama aya foko kiribna ke wati dola ni okanga prepre latike kofe alsa maître mamadou kamara kala selu konana abaira kafo ko ale dalemba tala kafo ko ni jiji nobseka ni ko injalatike ko o hukum de konana oluba la nyini wale nkata cour supreme la uni gouvernement ka nyoron soroyen o feneka seka u blakata cour constitutionnel la wala saka ni ko intien bangé kuna fondiso mbe bololoka nuka makobomada.net ale koko ko frantie la teme fanga ya ngani ayira o miye ka jamana politiki ko ko lakuraya e tienka wala sa bela jelemse ki sendwala inafo uye yelema kura mindon jamana saria sumba kura la ani yelema mindona kalafili chugo ya ula nobe sena miye kiri fanfela ye bamada.net kafola obeka ajeni yorofi kaka yirema horonya ira jamana kiri tige fere ufene ko labato aninga jamana de ufene ka hake ko dansigi bamada.net kafola ni debe dansigi angabi revue de la presse la bamanankana au kambe doa kumwere
iniche musa malese soko ikani kuna fonyo nununa kambe doa kumwere nala sona.
Et Aïcha, nous allons bientôt accoster. Et oui, le navire est bien arrivé à destination. En une minute, hein, docteur, quel est le message que vous souhaitez adresser aux autorités maliennes concernant leur rôle dans la préservation et la valorisation de l'héritage culturel à travers l'archivage?
Bien, merci. Moi, je pense que aujourd'hui, nous avons le ministère a la possibilité aujourd'hui, profitant de l'année de la culture, de revoir la structuration du ministère de la culture, de mettre en place des bureaux conjoints, des bureaux je ne sais pas comment, pour s'occuper de certains autres éléments en dehors de l'archivage, mais tout en mettant au centre l'archivage culturel. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, si on a un professionnel de l'archivage, il peut déterrer certains éléments qui peuvent encore être conservés pour constituer les premières archives du ministère de la Culture pour l'éternité et pour les générations futures.
Absolument, la promotion et la préservation de notre patrimoine culturel. Et c'est sur ces cris de cœur que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis, fidèles auditeurs. Et sachez désormais qu'en raison du réaménagement du programme de Studio Tamani, le Club de Tamani vous sera désormais proposé en 35 minutes au lieu de 45 minutes. Merci pour votre aimable attention. Prenez soin de vous et des autres. Le Club ce soir était une présentation de Aïssata Diarra et Lala Diarra Touré. Sekou Gadigo a coordonné cette émission à la mise en onde Mamadou Ouattara. Chaque jour de vie est une chance. Un bon week-end à tous.